Le projet de budget pour 2018 concentrera très légitimement l'essentiel de nos débats lors de cette session. Les incertitudes du contexte législatif et réglementaire nous ont conduits à différer le plus possible la tenue de cette séance consacrée à l'examen de ce document essentiel. Malgré cela, force est de constater que de nombreuses interrogations et préoccupations demeurent et qu'elles ne sont pas de nature à favoriser l'exercice de nos missions et responsabilités, qu'elles opèrent fortement la nécessité, pourtant impérieuse, de pouvoir se projeter dans un cadre pluriannuel. Ce constat dressé, il nous faut faire avec, mais nous ne saurions en aucun cas en assumer la responsabilité. Le contexte est pour le moins paradoxal. Alors que nous pouvons faire la démonstration de notre capacité à exercer nos compétences en direction des habitants, et notamment les plus démunis, et des territoires, notamment les plus fragiles, nous sommes confrontés à des difficultés accrues pour assumer pleinement les missions qui sont les nôtres. Quelques chiffres clés suffiront, je pense, à démontrer mes propos. Notre épargne nette avait été divisé par presque deux, passant de 98 millions en 2011 à 52 millions en 2015. Nous avons depuis stoppé cette dégradation, avec une épargne 2016 à 47 millions, une épargne 2017 estimée à 49 millions et un objectif pour 2018 autour de 40 millions. Pendant cette période, nous avons réussi à financer une progression des dépenses sociales de 15 à 20 millions d'euros par an et à faire face à une réduction des dotations et compensations en provenance de l'État de 55 millions. 174 millions de dotations et compensations en 2013, seulement 119 millions en 2017. Pendant cette même période, un recours modéré à la pression fiscale n'aura permis de compenser que 40% des pertes de dotations. L'endettement, qui était de 557 millions en 2017, aura été réduit de 10 millions. Malgré cette réduction de la dette, nous préservons un montant d'investissement soutenu qui approchera les 150 millions en 2018. La nouvelle contrainte sur l'encadrement du retour à l'emprunt rend encore plus crucial à l'avenir le maintien d'un niveau suffisant d'épargne nette pour financer nos investissements, investissements sur lesquels nous nous sommes engagés, en particulier dans le domaine éducatif. C'est dans cet esprit de responsabilité et de cohérence qu'une hausse mesurée du taux du foncier bâti sera proposée lors de cette session. Nous contribuons par nos infrastructures et la qualité de nos services à l'attractivité et à la vitalité de notre territoire et apportons une contribution essentielle à sa cohésion sociale. En retour, nous bénéficions d'une forte dynamique des droits de mutation qui ont atteint un niveau record en 2017. Tous ces éléments devraient nous conduire à aborder le nouvel exercice budgétaire avec volontarisme et détermination, tout en affirmant l'impératif d'une constante rigueur de gestion. Tel n'est pourtant pas le cas, car il nous faut désormais faire face à une contrainte d'une nouvelle nature. Le principe de contractualisation forcée, je dirais que c'est un concept innovant, tant sur le plan du droit que des principes, initié par la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques adoptée fin 2017, crée un contexte inédit. L'enjeu principal du budget n'est plus seulement son équilibre, mais le respect d'un seuil imposé nationalement aux plus grandes collectivités locales, indépendamment, je le souligne, de leur statut et de leur mission. Cette méthode est particulièrement inadaptée pour les départements, en charge des dépenses sociales à caractère normé et obligatoire, et dans les budgets desquels les dépenses dites de fonctionnement sont en moyenne nationale supérieures à 80%. Elle est encore plus pénalisante pour les départements à forte croissance démographique, comme l'Ille-et-Vilaine. Les critères de majoration sont en effet tellement restrictifs que notre département, pourtant toujours cité comme l'un des plus dynamiques de France au fil des palmarès, eh bien, ne peut pas bénéficier du bonus censé prendre en compte cette spécificité démographique. Pourtant, entre 2010 et 2016, le nombre de bénéficiaires de nos principales politiques et prestations sociales, l'APA, le RSA, la PCH, la protection de l'enfance. Ce nombre de bénéficiaires est passé de 33 000 à 42 000, soit un taux moyen de progression annuelle de 4,1%. Chacun pourra mesurer l'incohérence entre ce taux constaté et le taux directeur qu'il vous conviendrait de respecter. Dans ce contexte général, le sort réservé à la question du financement du dispositif des mineurs non accompagnés apparaît particulièrement choquant. Chacun sait que ce phénomène résulte d'un contexte international sur lequel les départements n'ont aucun pouvoir d'action, ceci relevant exclusivement des compétences régaliennes des États. Le département d'Ille-et-Vilaine, malgré la difficulté de l'exercice, s'efforce pourtant d'assumer pleinement les responsabilités qui sont les siennes au titre de la protection de l'enfance, quelle que soit l'origine des jeunes en question. Lors des récentes assises nationales de la citoyenneté, le défenseur des droits, M. Jacques Toubon, a publiquement qualifié, je le cite, d'exemplaire l'action de notre collectivité dans ce domaine. Cette reconnaissance est pour nous un motif de fierté et d'encouragement. Ceci nous conduit à des arbitrages budgétaires difficiles pour dégager des moyens importants pour faire face à des besoins en forte progression. Se voir appliquer des pénalités pour avoir assuré les responsabilités que la République et les pouvoirs publics nous confient constitue une double peine, aussi injuste qu'inacceptable. Force est malheureusement de constater que les négociations sur ces questions entre le gouvernement et l'Association des départements de France sont aujourd'hui dans l'impasse. Le bureau de l'ADF se réunit ce jour. Il ne participerait pas pour ne pas déserter cette session. Il va débattre de cette situation très préoccupante et va arrêter une position sur les suites qu'il conviendra de lui donner. Je ne manquerai pas de vous en informer dans les meilleurs délais. Le constat n'est pas plus favorable pour ce qui concerne la réforme du financement des allocations individuelles de solidarité. Les dernières annonces consistant en fait à faire supporter l'essentiel de l'effort annoncé de l'ordre de 600 millions aux départements eux-mêmes, car 300 de ces 600 millions relèveraient d'une péréquation horizontale entre départements. Une telle approche ne peut être acceptée, elle conduirait rapidement à déstabiliser les départements qui peuvent encore, comme le nôtre, faire face à une situation budgétaire saine, sans pour autant apporter une réponse pérenne à ceux qui sont déjà en grande difficulté. On ne traite pas les problèmes des plus démunis en ponctionnant ceux qui sont déjà tendanciellement en voie d'appauvrissement. Les conséquences possibles de la suppression progressive de la taxe d'habitation perçue par les communes et les communautés de communes sont tout aussi inquiétantes. L'hypothèse d'un financement de cette mesure par le transfert à ces collectivités du foncier bâti des départements est aujourd'hui étudiée. Le remplacement du foncier bâti par une part de CSG consacrerait une nouvelle perte d'autonomie fiscale en retirant aux départements la dernière ressource sur laquelle ils ont un pouvoir de taux. À l'opposé de tous les principes de décentralisation qui nous sont chers et constituerait un nouveau pas vers une reconcentration de moins en moins masquée. Nous avons pris la décision d'affirmer notre volonté d'assumer pleinement l'ensemble des responsabilités et missions qui sont les nôtres, avec un projet de budget respectant le principe de sincérité qui n'est pas compatible avec un taux de progression de nos dépenses de fonctionnement plafonné à 1,2%. Le respect de ce taux nous conduirait à limiter à 9 millions d'euros le volume de dépenses supplémentaires entre 2017 et 2018, alors qu'elles ont toujours progressé de plus de 20 millions d'euros l'ensemble des années passées. Il nous faut prévoir 4,5 millions d'euros uniquement pour les personnes handicapées, 2 millions pour les personnes âgées, 8 pour la protection de l'enfance, dont 6 au titre des mineurs non accompagnés. À elle seule, ces trois politiques publiques génèrent un dépassement de 6 millions d'euros, soit 0,7 points de taux directeur. Nous pouvons cependant affirmer que nous respecterions le taux directeur si l'État acceptait, ce qui constitue une revendication minimale, de neutraliser dans les calculs la progression des dépenses liées au MNA. ou faisant l'objet de financements dédiés, tels que les financements résultant de la loi Adaptation de la société au vieillissement, des dispositifs Maya, du FAPI pour l'insertion. Tel n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Nous pourrions aussi tangenter ce taux si la situation économique et de l'emploi, qui relève du gouvernement, se redressait fortement. La diminution du nombre de bénéficiaires du RSA nous permettrait alors d'économiser très rapidement plusieurs millions d'euros. Notre département, qui a reçu, je le rappelle, en 2017, 55 millions de dotations de moins qu'en 2013, a déjà très largement contribué au nécessaire effort national de réduction des déficits publics. Nous ne demandons pas aujourd'hui de revalorisation de ces dotations, conscients du contexte budgétaire national et de ses contraintes. Par contre, nous refusons d'être au centre d'une injonction contradictoire, assumer pleinement l'ensemble des missions qui sont les nôtres, en particulier dans les domaines des solidarités humaines, de la dépendance, de la protection de l'enfance, de la cohésion sociale, et se voir appliquer des pénalités pour avoir dépassé un taux directeur totalement inadapté à la réalité de notre situation et de nos missions. La dégradation, malgré le niveau élevé et reconnu du soutien de notre collectivité, de la situation dans de nombreux États, a suscité au niveau national des mouvements d'une rare intensité. Par ailleurs, tous les spécialistes des questions internationales savent que nous devons, dans les années qui viennent, faire face à des flux migratoires d'une ampleur exceptionnelle, quelles que soient leurs origines politiques, économiques, climatiques. Dans ce contexte, le projet de budget qui va nous être proposé pour 2018 s'inscrit pleinement dans le projet collectif que nous portons pour l'Ille-et-Vilaine et ses habitants. Ce projet affirme le devoir de solidarité envers les plus fragilisés, l'ambition de l'égalité des chances, l'impératif d'une contribution active et efficace à l'équilibre des territoires. Il exprime aussi notre conviction que la culture, le sport, l'éducation populaire sont des composantes essentielles à la cohésion sociale et pas les variables d'ajustement d'une équation budgétaire imposée d'en haut. Le gouvernement et le Parlement doivent entendre et prendre en compte la légitimité et la cohérence de ce projet, et en conséquence nous laisser la capacité de le mettre en œuvre sans altérer par un dispositif de pénalité profondément injuste, y compris sur le plan de l'éthique et de la morale. Pour notre part, nous continuerons d'agir avec conviction, détermination et fidélité à nos valeurs et à nos engagements envers les habitants de notre territoire, sans démagogie et dans un esprit de responsabilité. Aux paroles et aux postures, je préfère les actes. Le vote du budget que je vous propose sera un acte fort pour affirmer notre attachement aux solidarités, à l'équilibre des territoires et à la cohésion sociale. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Monsieur Martins, Madame Le Calinet, Monsieur Pichot, dans cet ordre-là.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs, coïncidence du calendrier depuis hier, c'est le printemps. Le printemps, c'est le symbole de la renaissance, de renouveau, de l'espoir. Et ce n'est donc pas un hasard si la métaphore a souvent été utilisée en politique. Souvenez-vous du printemps des peuples de 1848 en Europe, de celui de Prague en 1968, de celui de Pékin en 1989. De l'éphémère printemps de Damas en 2001, ou encore des printemps arabes de 2011. Le 8 janvier 2017, le candidat Macron, alors en campagne sur les terres radicales de Clermont-Ferrand, s'y mettait à son tour en citant le philosophe Alain. Il invitait chacun à penser pour le printemps. Il nous promettait alors que le printemps serait à nous, qu'il serait progressiste, et qu'il serait celui du changement. C'est vrai qu'après le carton hivernal, le printemps s'annonce toujours rempli de promesses, de belles promesses, mais pas que. Le printemps de 2018 s'annonce lui aussi rempli de contestations que celui de 1968. Si le vent de la croissance réchauffe le climat économique, le climat social, lui, s'assombrit. Grève dans les EHPAD, où les personnels épuisés dénoncent le manque de moyens, à la fois humains et financiers, pour s'occuper avec dignité de nos aînés. Rappelons sur ce sujet qu'à l'horizon 2030, l'Ille-et-Vilaine comptera 42% de personnes âgées dépendantes de plus, même si pour l'heure, notre département n'a aucunement à rougir ni du nombre d'établissements, ni des moyens que le département y consacre. Mobilisation des retraités, une hausse de 1,7% de CSG. Donc, on remet dans les hôpitaux, où les urgences marraines sont de plus en plus saturées. Donc, on remet aussi dans les prisons, où les surveillants exposés ne se sont pas assez défendus. Grève encore des facteurs à peine, notamment depuis le 9 janvier dernier. Grève des avocats aujourd'hui et des fonctionnaires annoncés pour demain. Grève des pilotes d'Air France annoncés pour vendredi. Grève donc des cheminots annoncés au rythme de 2 jours par semaine à 3 avril. Je m'arrête là, j'ai fait mon petit certain. On dit pourtant que les indicateurs de la pro ou Macron. L'économie se teinte de vert, que la croissance pour jeunes, la croissance française du produit intérieur brut a atteint 1,9% en 2017. C'est vrai moins qu'en Allemagne, de 3%, moins que la moyenne de la zone euro, de 5%, mais c'est son plus haut niveau depuis 6 ans. Après la pluie, le beau temps est en train de revenir, l'exit de la crise bizarre de la française, c'est mon doute, l'investissement est en hausse. Pour les ménages, pour les entreprises, cette tendance devrait-elle se poursuivre en 2018, nous l'espérons. Grâce à qui ? Merci Hollande, merci Macron, merci à la conjoncture. Emmanuel Macron le reconnaît lui-même dans une interview donnée en décembre dernier comme au quotidien à Mundo. La France bénéficie de l'embellie de l'économie mondiale, c'est un fait, mais aussi des réformes des dernières années, d'un sentiment de confiance plus courant. De manière mécanique, ce sont en effet les mesures du précédent quinquennat qui se ressentent partout aujourd'hui. Monsieur Macron doit le savoir, lui qui, usant à nouveau de la métaphore du printemps devant la parterre d'agriculteurs en plein désarroi le 26 janvier dernier, appelait cette fois penser printemps dans l'agriculture. Ce n'est pas au printemps que ce sont les récoltes, il faudra un peu de temps avant qu'il puisse. Les fruits des réformes qu'il a semées. Et on a fonctionné les réformes. Parmi celles-ci, il y a le nouveau cadre budgétaire dans lequel notre département doit voter son budget primitif. On le sait, notre pays est endetté. 2226 milliards d'euros de dette. Vous vous rendez compte, il y a 45 ans que l'État n'a pas voté un budget en équilibre. C'était en 1973. Et depuis 1978, la dette de notre pays n'a cessé de progresser. La France est le 7e pays le plus endetté d'Europe, à l'égalité avec le Kinshasa, le Portugal. 35 000 euros par habitant, voilà ce que représente aujourd'hui la dette publique française. Elle représente 98% de notre PIB, alors qu'elle devrait en sorte de Maastricht ne pas dépasser les 60%. La loi de finances 2018 prévoit de rembourser 120 milliards, mais en même temps, d'orienter 195 empruntés pour rembourser. C'est ce qu'on appelle faire de la cavalerie. Depuis 2006, le contribuable français n'a pas remboursé un seul euro emprunt, laissant aux générations futures le soin de le faire. Et pourtant, loin de mourir en état de faillite, notre génération va expirer sur un matelas rempli d'obligations par le trésor public. Pour les deux tiers, notre dette est actuellement détenue par des non-résidents, c'est-à-dire par des créanciers étrangers. Ce qui fragilise à l'évidence notre indépendance économique et financière. Malgré des taux extrêmement bas, notre situation nationale et financière est devenue explosive. Alors, qui pourrait sérieusement reprocher à nos dirigeants de chercher à sortir de cette situation que tous ont contribué ces dernières années à créer et développer ? Comme Michel Sapin, en tout cas, qui déclarait en 2013 qu'il y a un État, mais c'est un État en faillite. C'est la raison pour laquelle il faut mettre en place des programmes de réduction de déficit. Pas à François Fillon, qui en avril 2017 répétait ce qu'il avait déjà dit en Corse en 2007, nous sommes un État en faillite. Et c'est ainsi qu'après la RGPP, la Revision Générale des Politiques Publiques, chère au président Sarkozy, revision qui conduira d'abord et d'ailleurs une réduction de plus de 5% des effectifs publics, mais aussi au premier jet de la DGF, se faisant en 2011 avec une diminution de près de 200 millions d'euros. Après la RGPP, on a assisté à la marque de la modernisation de l'action publique. Jérôme Payot, qui a généralisé 50 milliards d'économies et une baisse généralisée des dotations de 11 milliards sur la période 2015-2017, soit 55 millions d'euros, je vous rappelle, en moins pour notre département. Après la RGPD, après la MAP, voici qu'on nous présente un nouveau dispositif original, une conceptualisation, et qui cette fois-ci vise à réduire l'endettement, non pas de 11 milliards, mais de 13 milliards sur une période 2017-2022. Pour éviter d'affaiblir la croissance économique encore fragile et pénaliser l'investissement public local, l'État cherche à ce que l'on améliore notre capacité de financement, tout en nous désendettant. Déduction faite de l'inflation, il cherche à ce que l'on diminue nos dépenses de fonctionnement. Il y a là un recul de la réserve publique. Pour ce faire, il prévoit de restreindre les dépenses des 322 plus grandes collectivités, en leur fixant un taux directeur à 1,2%. Ce taux s'applique de façon uniforme et indifférenciée, quelle que soit la nature de la collectivité, département, région, ville, intercommunalité, vont subir la même règle du jeu. Et ce, quelle que soit la nature de leurs dépenses, pourtant propres à chaque groupe de collectivité. Et c'est là, il me semble, que réside la genèse des problèmes à venir. Le postulat de base est de considérer que toutes les dépenses de fonctionnement sont par nature nécessaires et qu'elles nécessitent donc d'être limitées, voire au mieux supprimées. L'État, sans discernement, traite de la même façon et met dans le même panier les versements au SDIS, le syndicat départemental d'incendie de secours, les allocations individuelles de solidarité des départements, avec les champs de communication des régions, les dépenses de celles des cérémonies des intercommunalités ou les dépenses de carburant des communes. Il y a là une profonde inéquité qu'il conviendra de corriger, je l'espère, lors des futures négociations. De même, vouloir être le bon élève et appliquer localement les dispositifs voulus et encouragés financièrement par l'État, par le ministère, va s'avérer plus pénalisant. En étant comptabilité comme une cause dans nos dépenses, les dispositifs pourtant financés et intéressants comme ceux prévus par la loi SD, la loi d'adaptation sur le vieillissement de la société, vont progressivement restreindre notre marge de manœuvre et notre capacité d'action. Aussi, vous l'avez dit, monsieur le Président, comment peut-on accepter qu'en se substituant à l'État pour garantir un accueil de qualité aux mineurs étrangers isolés, et cela sans réelle compensation, et je ne rêve pas pour demain, nous puissions en même temps être pénalisés par la prise en compte de cette dépense pendant 1,2%. Il y a là encore une profonde atteinte à notre liberté d'administration, à notre libre administration et à notre autonomie financière. Si l'essentiel des économies, depuis 2013, ont été faites sur le taux des collectivités locales, 9 milliards de dotations en moins, alors que dans le même temps, le budget de l'État a progressé de 3 milliards. Il faut que cela change. Le premier président de la Cour des comptes a invité le chef de l'État à mener des réformes structurelles pour réduire son déficit public. Pour l'instant, j'ai bien peur que nous nous proposons qu'un budget de recentralisation et de perte d'autonomie fiscale pour notre collectivité. Si l'État s'est engagé à compenser à l'euro près la perte de recettes fiscales qu'entraîne la suppression de la taxe d'habitation, percevoir un impôt ou une dotation, ce n'est pas tout à fait la même chose. L'impôt, c'est le lien direct entre le contribuable et la collectivité. Si celle-ci développe l'activité sur son territoire, la base fiscale augmente et les recettes de la collectivité également. La dotation, c'est un lien total de dépendance envers l'État. Troquer le foncier bâti pour l'affecter au bloc communal contre une partie de la CIG, c'est en mode département qui sont parmi le levier fiscal et mettre fin à son autonomie, puisqu'il lui restait au moins d'autonomie. Ce serait un nouveau recul pour la décentralisation. C'est donc une nouvelle fois dans un contexte difficile, celui du risque de perdre la confiance des élus locaux et d'une volonté contre-étatique de ce que font les collectivités locales que notre département doit se livrer à l'exercice complexe de l'élaboration de son budget. Il nous appartient d'exprimer au terme des 3 jours de session prévue une prévision de nos dépenses et de nos recettes pour l'année à venir, mais pas seulement. Vous l'avez dit, ce budget par ses épargnes stabilisées autour de 40 millions pose aussi les bases de la réalisation de notre plan pluriannuel d'investissement pluriannuel. Nous avons parlé du milliard d'investissement sur le mandat, nous y serons. Je ne vais pas volontairement aborder des chiffres ici, on verra tout à l'heure, mais j'ai aussi maladies particulières et importantes qui entraînent la mobilité. Après la fin de Notre-Dame-des-Landes, la remise en cause du projet ferroviaire liaison nouvelle Ouest-Bretagne-Pays-Loire, le rapport Duron sur les infrastructures nationales sonne le glas de la politique d'aménagement du territoire breton, mais aussi nationale, faute de moyens. Le Grand Ouest se trouve, a priori, pour l'instant abandonné, et doit trouver des solutions pour se désenclaver. Il va de son développement économique, de son attractivité. C'est pourquoi nous soutenons avec force le projet de pacte d'accessibilité de la Bretagne. C'est pourquoi nous confirmons notre volonté de contribuer à l'amélioration de la ligne ferroviaire Rennes-Châteaubriant. Le rapport Spinetta préconisait la suppression de petites lignes ferroviaires non rentables, peu utilisées et héritées d'un temps révolu. Oui, il va faire beaucoup de routes dans ce cas-là. C'est méconnaître la réalité du transport ferroviaire dans nos territoires que de croire que le transport ferroviaire secondaire peut se réduire à un transport de masse à la parisienne, qui a un rôle d'irrigation, de connexion des territoires, de vie des territoires. Heureusement, le gouvernement a annoncé qu'il ne suivrait pas la préconisation de rapport sur Pinetta. Nous lui en donnons acte et nous resterons vigilants. Vient nos soucis sur les mobilités, l'accès à Rennes. L'accès à Rennes devient aussi un sujet préoccupant pour la mobilité de nos concitoyens sur lequel il nous faudra réfléchir collectivement. Le covoiturage et les déplacements doux ne pourront répondre que partiellement aux problèmes de demain. La rocade a une fonction de transit, elle est gérée entre guillemets par l'État et ne peut se réduire à un boulevard urbain. Le département a fortement investi ces dernières années pour améliorer la fluidité du trafic sur toutes les grandes voies départementales qui convergent vers cette rocade. Mais sa congestion récurrente et croissante pénalise aujourd'hui tous ceux qui vivent à l'extérieur de la métropole. Son engorgement quasi quotidien tente de devenir un soin pour les entreprises de l'Ouest, toutes les entreprises de l'Ouest. Il faut une mobilisation générale qui ne passera pas, il est vrai, que par le tour de pied. Pour conclure, et sans transition, puisque je parle de mobilisation générale et de générale, je voudrais rappeler un anniversaire. Pourquoi celui d'entre eux ? Celui de notre code civil, promulgué par Napoléon Bonaparte un 21 mars, il y a 214 ans aujourd'hui. Pudique sur la question sensible du droit de mourir dans la dignité, notre bon vieux code civil sent la poussière sur la question des mœurs et mérite un toilettage. Dans le débat qui souffre préalablement la révision de la loi bioéthique, nous, membres du mouvement radical social et libéral, demandons toujours que soit élaborée une loi qui n'ignore plus la liberté de conscience de l'individu, une loi de liberté qui permette de mourir dans la dignité et accorde à ceux qui le souhaitent une fin de vie maîtrisée et apaisée. C'est une valeur fondamentale que nous défendons. Dans cette attente, trois éléments que nous défendons aujourd'hui plus présentés, parce que l'avenir de notre territoire se joue ici et que le niveau d'épargne que nous parlons à l'avenir va permettre de mener à bien l'ensemble du projet d'investissement nécessaire à la préparation de notre avenir. Notre groupe, Monsieur le Président, vous apporte tout son soutien pour ce vote du budget primitif, mais plus que cela pour l'ensemble des actions qui y sont attachées. Merci de votre attention.
Merci, Monsieur le Président. J'essaierai de tenir aux 5 minutes imposées au groupe politique pour les.
On avait dit que c'était plus pour les budgets.
Ah, ça m'avait échappé. Même si je constate que la règle est indiquée avec plus ou moins de souplesse. Cette session est donc consacrée au vote du budget 2018. Sans surprise, le groupe de la droite et du centre ne le votera pas. Pas par principe, mais bien parce que nous désapprouvons votre gestion des deniers publics, y compris malgré les arguments parfaitement entendables que vous venez d'exposer, tout comme la critique indirecte des décisions du président de la République, pour lequel, il y a moins d'un an, vous exhortiez les Français à voter.
Le gouvernement vous demande... Non, de c'est une contre-vérité manifeste, Madame Le Calénec. Je n'ai jamais dit cela. Alors... Vous commencez pas comme ça.
Le gouvernement vous demande de ne pas dépasser 1,2% d'augmentation des dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire pas plus de 9 millions de plus. Vous atteignez pourtant 1,9 ou 1,7 à en croire les hôpitaux du directeur général des services dans Inoue, avant même l'examen de ce budget. Donc, c'est-à-dire, pas plus de 9 millions de plus, vous atteignez ce 1,9 ou ce 1,7, c'est-à-dire environ 14 millions. Vous vous verrez par conséquent, toutes choses égales par ailleurs, appliquer une pénalité de 4,5 millions d'euros, l'équivalent, vous l'avez dit tout à l'heure, de ce qui est prévu en plus pour les personnes handicapées. Au moment même où les personnels des maisons de retraite manifestent pour dénoncer leurs conditions de travail et les familles de reste à charge, vous auriez dû tout tenter pour nous épargner pareil dans le régalien. Tout tenter. Vous nous aviez parlé de négociations engagées entre l'Association des départements de France et le gouvernement pour une meilleure prise en charge des mineurs étrangers ou des allocations de solidarité. Je veux dire qu'un bureau sur Bruxelles aujourd'hui à la mienne. Mais force est de constater, et vous venez de le rappeler, que ces négociations n'ont pas abouti, mais curieusement, rien ne se passe. L'État tarde visiblement à assumer ses responsabilités, mais la voie de l'ADF jusqu'à présent se fait curieusement bien discrète. Et nous avons connu la majorité socialiste plus combative et même plus frontale à l'égard de certains gouvernements et de certains présidents de la République par le passé. Vous nous aviez annoncé une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au Conseil départemental et donc, nous l'espérions, une réflexion sur le temps de travail. Mais là encore, rien ne se passe, ou à tout le moins, nous ne sommes pas au courant. Nous nous sommes pourtant livrés à un calcul instructif. Le seul passage des jasons du département aux 1607 heures, recommandation, injonction du président de la République, permettrait une économie très significative. C'est ce qui s'est passé dans de très nombreux départements de toute sensibilité politique. Après avoir pris connaissance du compte administratif, et manifestement vous avez les éléments, je vous en remercie, puisque vous les avez communiqués en commission 4, vous auriez dû repasser au peine fin l'ensemble des dépenses, notamment les dépenses facultatives, et vous demander lesquelles ajuster ou remettre en cause dans leur modalité ou leur objet. Nous estimons que plusieurs millions d'économies sont encore possibles. Notre groupe aurait apprécié être associé à ce travail difficile, mais nécessaire. Ce constat n'a pas été fait. Vous auriez pu engager avec la région Bretagne une démarche d'optimisation des dépenses, des compétences partagées, que reste la culture, le tourisme ou le sport. Là encore, notre groupe aurait contribué et pris ses responsabilités. Cela n'a pas été fait. Au final, vous vous félicitez régulièrement de l'augmentation du nombre d'habitants, du niveau de croissance de l'île et vilaine, et donc du niveau élevé des droits de mutation. Un record en 2017. Vous voulez bien, monsieur le président. Mais alors, comment expliquez-vous que d'autres conseils départementaux, qui vivent des réalités comparables, soient parvenus cette année tout à la fois à augmenter le niveau des investissements, baisser les dépenses de fonctionnement et stabiliser la fiscalité? Car, et c'est la conséquence de l'absence de volonté manifeste de baisser les dépenses de fonctionnement, vous avez une nouvelle fois augmenté le taux de la taxe foncière d'un point de plus, ça sera de 18,90 à 19,90. En somme, vous choisissez la facilité, vous avez pénalisé 400 000 contribuables du débit et vous allez vous attaquer à leur pouvoir d'achat. Ce sera donc sans nous.
Le cas sera souvent ce soit sans nous. Monsieur Pichot. Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames, messieurs, alors j'attachais de ne pas rester dans la polémique que cherche à distiller en permanence Mme Vélenec et vous poser une première question. Connaissez-vous la notion d'entreprise libérée? Il s'agit d'une forme organisationnelle dans laquelle les salariés sont totalement libres et responsables dans les actions qu'ils jugeront entreprendre. Pour permettre la liberté et la responsabilité des salariés, la libération d'entreprise remet en cause les pratiques organisationnelles qui les empêchent. Ce type d'organisation conduit
à une réduction des dispositifs de contrôle à l'intérieur. Cette approche prône comme valeur fondatrice la confiance en l'homme. La prise de conscience de la nécessité d'un changement des pratiques organisationnelles résulte de la constatation du coût direct, mais aussi indirect du contrôle. Ce contrôle entraîne notamment des motivations du personnel, difficulté à innover dans un environnement de plus en plus complexe et imprévisible. Nous en avons d'ailleurs un bel exemple en Ille-et-Vilaine avec la société AMI qui agit dans le domaine de la tolérance fine de précision et qui est installée à Torcé. Cette entreprise a d'ailleurs reçu, il y a quelques années, un Oscar d'Ille-et-Vilaine pour son dynamisme avec un développement de 25% par an. Ce concept pourrait être séduisant pour l'entreprise. Pourquoi dans ce cas ne pas l'appliquer à l'action publique? Pourquoi ne pas laisser les savoir-faire s'exprimer localement? Les départements ont des savoir-faire. Nous connaissons notre territoire, ses particularités, son histoire. Chef de file des solidarités humaines, nous investissons chaque jour dans les politiques de solidarité parce que nous voyons sincèrement qu'elles sont une chance et une ressource pour notre vie. Nous sommes de côté de chaque citoyen fragile qui a besoin d'accompagnement pour gagner en autonomie, en énergie, en compétences, afin de retrouver le chemin du travail ou la confiance en soi nécessaire à l'affirmation de sa place dans notre société. Nous protégeons les enfants, les parents, comme les aînés qui ont besoin d'être guidés et épaulés dans ces étapes cruciales de la vie. Chef de file des solidarités territoriales, nous soutenons les communes pour permettre à chacun de bénéficier des services publics de qualité, quel que soit son lieu de vie. Nous créons des réseaux physiques et numériques indispensables à l'échange et l'interaction qui créent des richesses humaines, économiques et culturelles. Nous garantissons le maillage territorial d'accès à l'éducation de nos enfants, mais aussi à la culture et au sport, indispensables pour l'épanouissement personnel. J'ai la conviction profonde que le nouveau monde ne tombera pas préfabriqué des bureaux de Bercy. Il se construit au quotidien dans nos territoires. Le message que nous pouvons faire passer au gouvernement est « Laissez-nous notre liberté d'agir, notre liberté d'innover, notre liberté de mener des politiques utiles au développement de l'éducation. » Notre savoir-faire, allié à notre liberté de choix et d'action dans l'exercice de notre mandat, est une chance pour notre territoire. Et pourtant, elle est aujourd'hui remise en cause. Le taux unique d'évolution des dépenses de fonctionnement de 1,2% qu'on veut nous imposer va à l'encontre de l'esprit de liberté qui devrait éviter la décentralisation. L'application de ce taux aurait pour conséquence de limiter à 9 millions d'euros l'évolution de nos dépenses de fonctionnement, alors même que les dépenses enfance famille, personnes âgées et personnes handicapées seront de 15 millions d'euros cette année. C'est simple, basique. Nous ne pouvons pas contraindre l'évolution de nos dépenses à 9 millions d'euros sans renoncer à certaines de nos politiques publiques. Quelques exemples concrets illustrent ces propos. Prenons la protection de l'enfance, c'est une politique essentielle du département. Certains départements arrêtent déjà systématiquement l'accompagnement à l'âge de 18 ans. Ce n'est pas notre choix. En fonction de chaque jeune, nous pouvons accompagner jusqu'à 21 ans. Pensez-vous que tous les jeunes de 18 ans peuvent être pleinement autonomes, sans aucun soutien familial ou soutien de la collectivité? Nous accueillons dignement les jeunes et ne les abandonnons pas dans la nature au lendemain de leur majorité. Nous assurons un suivi afin de faciliter au maximum la capacité qu'ils auront de s'émanciper dans leur vie d'adulte pour être vraiment acteurs de notre société. Alors oui, nous augmenterons de 8 millions d'euros notre inscription budgétaire pour la protection de l'enfance et nous l'assumons pleinement. C'est un choix humaniste et courageux qui fait l'identité de notre majorité. Nous ne pourrions pas assumer cette dépense en appliquant le taux unique. Prenons la politique personnes âgées. L'enjeu du vieillissement et de l'accompagnement des personnes va être de plus en plus important dans les prochaines décennies. Nous estimons que d'ici 2030, cette part de la population progressera de 30% pour atteindre 56 000 personnes dans notre département. Permettre à chacun de bien vieillir est un enjeu de société. J'en profite d'ailleurs pour dire notre soutien aux personnels des EHPAD dans leur mobilisation pour garantir aux pensionnaires des conditions de vie dignes et humaines. La politique de notre majorité en faveur des personnes âgées s'articule autour de deux objectifs. Favoriser et conforter la vie à domicile des personnes âgées qui le souhaitent et développer un accueil de proximité de qualité quand le maintien à domicile n'est plus souhaité ou possible. Nous mettons des moyens considérables pour la réalisation de ces objectifs et y consacrons près de 124 millions d'euros. L'application du taux unique nous obligerait à réduire notre engagement en faveur des personnes âgées. Prenons enfin la question des solidarités territoriales. Nous menons une politique volontariste pour l'aménagement des territoires. Notre collectivité a la solidarité territoriale au cœur de ses missions. Le développement harmonieux et solidaire de l'Île-et-Vilaine est une priorité de notre projet politique. Depuis le début du mandat, nous renforçons le dynamisme des centres-bourgs par l'amélioration et la diversification de l'offre de logement et par le soutien aux activités et services de proximité. Les villes et villages de notre département doivent rester des communes vivantes. Nous serions contraints de restreindre notre accompagnement des intercommunalités et des petites communes dans leur projet, nous contraignons à surprendre nos dépenses par le taux unique. Nous ne nions pas la nécessaire réduction des déficits publics dans notre pays, dont nous avons d'ailleurs déjà pris notre part. Les dotations de l'État ont ainsi diminué de 55 millions d'euros entre 2013 et 2017. Notre liberté de choix en dépenses, de niveau de service, d'investissement se réduit encore cette année. Cette liberté est pourtant indissociable des principes qui fondent la décentralisation. Vous le savez, le budget que nous présentons a une ambition, la mise en œuvre de notre projet. Un impératif, une gestion saine, et un devoir, maintenir notre capacité d'investissement pour soutenir la vie économique brésilienne et préparée. Maintenir notre capacité d'investissement aussi, que nous procédions à une hausse d'un point de la fiscalité sur le foncier bâti. Elle représente en moyenne 15 euros par an et par contribuable propriétaire de son logement. C'est un effort que nous demandons aux Brésiliennes et aux Brésiliens qui permettra d'assurer un financement d'équipements indispensables au développement de notre territoire. Nous le savons, mes chers collègues, nous votons ce budget dans un moment particulier de l'histoire de notre institution. Notre autonomie est remise en cause par la contractualisation. Mais plus grave encore, les politiques de solidarité humaine et territoriale que nous avons la mission de mettre en œuvre doivent partir de ces décisions gouvernementales. Notre groupe est plus combatif que jamais et vous pouvez compter sur notre esprit d'innovation, notre sens des responsabilités et notre détermination. Monsieur le Président, vous avez notre totale confiance pour mettre en œuvre notre projet départemental au service des Brésiliennes et des Brésiliens, ainsi que pour défendre la particularité de notre département à l'Assemblée des départements de France. Je vous remercie de votre attention.
Bien, brièvement. Madame de Callennec, je ne laisserai jamais à quiconque la possibilité de déformer mes propos. Donc je vais peut-être devoir être un peu cruel avec vous, mais il faut les resituer dans un contexte. Quand j'ai appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, je l'ai fait comme l'immense majorité des progressistes, des démocrates, des humanistes, car il s'agissait alors de faire obstacle au projet réactionnaire, raciste, xénophobe de Madame Le Pen. À l'époque, on ne vous a pas entendu, à la différence de la très grande majorité, y compris de vos amis. Vous ne vous êtes pas exprimé sur ce sujet. C'est profondément regrettable, j'avais déjà eu l'occasion de le dire. Par contre, vous avez fait partie du dernier carré qui a soutenu jusqu'au bout un candidat qui était pourtant empêtré dans des affaires et qui aura un jour des comptes à rendre à la justice. Ça, c'est la réalité factuelle des événements qui se sont déroulés au printemps dernier. Je m'excuse de devoir vous le redire. Votre posture sur la question des pénalités, elle est stupéfiante. N'en contestez même pas le principe. Vous l'actez et vous nous dites finalement c'est notre faute si on a des pénalités. Alors votre proposition, ce serait quoi ? Ce serait que dès maintenant, dès ce budget, on supprime 6 millions d'euros de dépenses en direction des personnes âgées, des personnes handicapées. Eh bien, ce n'est pas notre combat. Notre combat, on va continuer de se battre pour faire valoir la légitimité de ces politiques publiques auprès des pouvoirs publics dans leur ensemble, auprès des différentes instances. Mais nous ne baissons pas pavillon et ne confondons pas le vote du budget primitif avec la mise en œuvre de ce dispositif, qui de toute façon ne se fera que sur la base des comptes administratifs constatés, ça se fera dans un an et demi, et nous avons encore eh bien, des débats, des combats à mener. Je regrette que vous n'en soyez pas, nous en serons, parce que ce principe-là, il est contestable, il doit être contesté, et nous continuerons de le faire. Donc non, nous ne ferons pas cet abattement forfaitaire qui impacterait très lourdement des politiques auxquelles nous sommes attachés. Et quant à laisser imaginer qu'il suffirait de s'intéresser aux politiques dites facultatives, mais c'est de la démagogie la plus complète. Ces politiques, le sport, l'éducation, la culture, c'est peut-être 10 millions d'euros. Même si on les abattait forfaitairement de moitié, ça ne suffirait même pas à nous faire rentrer totalement dans les clous. Et ils pourraient faire le même exercice. Donc, vos propositions, parce qu'il faut nommer les choses, eh bien, c'est de supprimer l'ensemble de ces interventions dans le domaine du sport, de la culture, de l'éducation populaire. Et je sais que vous n'êtes pas une contradiction près dans les débats à venir. Vous n'avez pas envie de nous dire qu'il faudrait que l'on fasse davantage pour tel, tel et tel. Alors, la cohérence, c'est quelque chose qui me semble important. Moi, j'ai l'habitude d'être précis, et hier, j'étais avec ma collègue Anne-Françoise Courteil, à la pose de la première pierre, un équipement pour personnes handicapées mentales lourdes. Eh bien, la place, le coût annuel d'une journée en foyer de vie, c'est près de 60 000 euros par an. Eh bien, cette hausse de fiscalité que vous qualifiez de ponction majeure dans le pouvoir d'achat de nos concitoyens, à peu près 15 euros par ménage propriétaire de son logement, 15 euros par an, pas par mois, 15 euros par an. Eh bien, pour financer une seule place supplémentaire en foyer de vie, il faut 4000 contributions de ce type. 4000 ménages qui apporteront 15 euros, ça ne financera qu'une place en foyer de vie. Et on sait que ce n'est pas des places, on ne peut pas les créer une par une, les besoins sont extrêmement importants. Donc, il faut dire la réalité des choses, 4000 foyers, c'est l'équivalent d'une petite ville de 9 à 10 000 habitants. Et bien, la contribution de cette collectivité, ça dégagera uniquement le financement d'une place en foyer de vie. Alors, sur ces postures, parce que parfois c'est fatigant d'entendre cette expression, cette forme de compassion que vous exprimez, oui, bien sûr qu'il faut s'occuper de nos aînés, oui, bien sûr que le handicap est un problème important, et nous nous y penchons et nous dégageons des moyens. Mais cette compassion-là ne suffit pas si elle ne s'accompagne pas de décisions politiques, et celles que nous vous proposons permettent de faire face. Alors, je reprends une citation, elle a plus de 350 ans. C'était dans un contexte, bien sûr, historique, politique, religieux, qui n'a rien à voir avec celui qui est le nôtre aujourd'hui. Et à l'époque, quand on disait les hommes, Madame Kazenek, c'est bien évidemment les hommes et les femmes. Et bien, cette phrase, c'était de dire Dieu se rit des hommes qui se plaignent des compétences, des conséquences, mais qui en chérissent les causes. Eh bien, votre posture, c'est bien celle-là sur ces problématiques. Vous feignez de compatir aux conséquences, mais vous en chérissez les causes en entérinant sans arrêt le démembrement de l'action publique et la réduction de nos capacités d'action. Donc, c'est Bossuet qui disait cela à l'époque, mais ses propos restent, en ce qui concerne, une brûlante actualité. Merci. Bien, nous allons...